Vous écoutez France Musique.
Bonjour à toutes et à tous, c'est le matin des musiciens du mercredi. Et bonjour à vous, public qui m'avez rejoint très très nombreux ici aujourd'hui au studio 106 pour la troisième et dernière émission en compagnie du pianiste Cédric Péchia. Cher Cédric, très heureux de te retrouver.
Merci.
En troisième semaine, pour l'apothéose, je devrais dire, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, 29 janvier, sort un disque de toi, le dernier en date. C'est l'Art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, que tu as enregistré dans des conditions un peu particulières. Tu nous en parleras au cours de cet atelier. Il sort aujourd'hui chez Aeon. Alors j'ai eu le plaisir de l'entendre il y a déjà quelques semaines. Tu m'en as apporté des copies de l'enregistrement avant qu'il ne sorte officiellement aujourd'hui. Et c'est un disque qui m'a profondément ému, presque aux larmes, par la sonorité, la tenue, la pensée, la profondeur de l'interprétation, cette recherche personnelle qui me fait dire que ce n'est certainement pas une œuvre nouvelle à ton répertoire, cet Art de la fugue de Bach.
Effectivement, ça fait quasiment 20 ans que je travaille cette œuvre et je peux dire quasiment quotidiennement. C'est vraiment, il y a peu de jours où je ne joue pas une ou deux fugues, trois fugues. Évidemment, il y a eu des moments où j'ai travaillé avec beaucoup plus d'intensité, mais quelques minutes par jour, disons, et c'est vraiment une... Enfin, pour moi, ça paraît toujours étonnant. Souvent, on nous demande quelle est votre œuvre préférée, votre compositeur préféré. C'est évidemment difficile de répondre, mais pour moi, je dirais que voilà, c'est très très haut et peut-être même à la place la plus importante pour moi de tout le répertoire que je peux jouer.
Ça, je peux en témoigner parce que nos ateliers Schubert des semaines passées ont fait que nous avons répété avant, on a donné des concerts, on a donc travaillé chez l'un, chez l'autre. Enfin, toi, tu habites Berlin, donc et en fait, chaque fois que j'arrive ou à un moment donné où je vaque à des occupations et que toi tu es au piano, souvent j'entends une fugue de cet Art de la fugue revenir sous tes doigts comme une sorte de pain quotidien, d'hygiène intellectuelle et je ne sais pas, sensitive quotidienne. Alors voilà, je trouve ce disque absolument admirable et je dirais incomparable au sens littéral vraiment avec tous les enregistrements qu'on connaît. Dieu sait s'il y en a, les grands pianistes, on y reviendra peut-être au cours de cet atelier, qui ont enregistré cet Art de la fugue, mais il me semble que la tienne de version est tellement personnelle et tellement... Justement, c'est une voix VOIE et une voix VOX éminemment originale, me semble-t-il, singulière, qui mérite l'écoute. Et une écoute, alors je dirais une écoute attentive et une écoute empathique. Alors on va t'entendre, qu'est-ce que tu vas nous jouer en ouverture de cet atelier ?
Alors, donc c'est une œuvre très imposante de 100 minutes environ et qui n'est jamais plus belle que dans sa totalité. Donc j'ai choisi en fait de jouer maintenant le début de l'œuvre et à la fin de l'émission, je jouerai la fin de l'œuvre. Donc il y aura un grand espace comme ça qui sera consacré à nos explications, à d'autres versions. Mais disons, on aura au moins le début et la fin qui n'en est pas une puisque c'est inachevé.
On en reparlera tout à l'heure. Donc Cédric Péchia au studio 106 pour le matin des musiciens. Cédric Péchia devant le public du studio 106 qui vient d'interpréter les deux premiers contrepoints de l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach. Merci Cédric parce que tu sors aujourd'hui même la totalité de l'art de la fugue pour le label Aeon, enregistré sur ton propre Steinway que j'ai eu le plaisir de toucher, toccare comme on dit en italien, de toucher chez toi à Berlin, qui est un somptueux Steinway américain de 1901. Avec une sonorité grandiose et en même temps très très intime, avec des possibilités d'expression, de chant presque illimitées, une puissance aussi colossale quand on veut jouer des œuvres de portée plus symphonique, dirons-nous. Pourquoi le choix de ton propre piano, qu'on écoutera tout à l'heure dans ce disque ?
Ce piano a la particularité d'avoir une sonorité incroyablement chantante et une longueur de tenue de notes qui est très importante pour toute musique naturellement, mais particulièrement pour celle-ci. Tous ces contrepoints, particulièrement les longs, comme il y en a vraiment un certain nombre qui demandent vraiment une intensité de la sonorité. Et n'oublions pas que nous ne savons pas pour quel instrument cette œuvre a été composée. Et bon, le clavecin, l'orgue, enfin, tout ça est encore très ouvert au niveau des recherches actuelles de la musicologie. Mais voilà, donc c'était l'idée à la base d'avoir vraiment cette possibilité de faire ce qu'un orgue fait naturellement ou ce qu'un instrument à cordes fait tout aussi naturellement.
Mais est-ce que c'était pas tout de même ce qu'indiquait ou ce que préconisait Bach lui-même pour cet art de la fugue, dans les quelques mots qu'il a écrits?
Oui, enfin, en général, on a peu de témoignages de Bach, mais on sait qu'il insistait auprès de ses élèves pour que le chant soit prédominant. Il demandait toujours à ses élèves d'avoir un jeu chantant au clavecin. Et donc, voilà, c'était cette idée. Donc, ce piano que je connais bien aussi, c'est naturellement toujours extrêmement pratique d'enregistrer un disque sur son propre instrument. On a l'occasion de faire tout le travail avant l'enregistrement sur l'instrument. Donc, voilà les deux raisons principales, en fait.
En tout cas, moi, ce qui me frappe quand on t'écoute, alors en direct live, comme on dit ici devant le public, mais on aura l'occasion tout à l'heure d'écouter des extraits de ton disque, c'est la spiritualité qui emplit ton interprétation et qui est totalement différente de quelques témoignages d'autres pianistes que nous avons eus ces dernières années, qui se limitent à une lecture extrêmement cérébrale, intellectuelle, et qui font oublier la dimension non seulement spirituelle, mais presque philosophique de cette œuvre, dont on rappelle ici qu'elle a été écrite dans les toutes dernières années de la vie de Jean-Sébastien Bach, tout en n'étant pas sa dernière œuvre, comme on l'a dit pendant longtemps, puisque la dernière fugue étant inachevée et étant suivie, je crois, d'un choral où les paroles, c'est « Seigneur, je me présente devant toi ». On a fait tout un tas de spéculations un peu naïves là autour, mais en fait, c'est l'œuvre de plusieurs années, c'est un véritable chantier qu'il met en œuvre dans cet art de la fugue.
Absolument, qu'il met en œuvre dès les années 1740, c'est-à-dire il a 55 ans à ce moment-là, et on ne connaît pas la raison pour laquelle il a décidé un jour d'écrire cette œuvre, qui d'ailleurs ne s'appelait pas Art de la fugue, c'est un titre qui a été donné par un des fils de Bach, Carl Philipp Emanuel. Et vraiment, on se demande ce qu'il a voulu prouver à lui-même et au monde, parce qu'il avait déjà écrit un nombre de fugues incroyables dans sa vie, des fugues pour clavecin, pour orgue, des chorales, naturellement, il y a un nombre de fugues incroyables dans toutes les cantates. Et donc, il a quand même décidé de prendre la plume et d'écrire sur quatre portées, alors que voilà, ce qui indique probablement que ce n'était pas une œuvre qui était seulement conçue pour le clavecin, mais qu'elle allait bien au-delà de cette idée concrète d'un instrument. Certaines personnes parlent même d'une œuvre spéculative, comme si c'était une œuvre qui était destinée à être lue par de grands spécialistes, des collègues de Bach, mais pas forcément à être jouée. Donc encore une fois, beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. Et c'est vrai que le mystère reste présent, non seulement par ces quelques faits que je viens de décrire, mais aussi simplement quand on a la chance de se mesurer à ce texte. Je crois que le mot est juste se mesurer à ce texte énorme. Il y a sans arrêt des parts de mystère dans les lignes mélodiques. Je veux dire, c'est un nombre de questions incroyable, j'ai certaines réponses, mais il y en a encore beaucoup, beaucoup qui restent ouvertes.
Est-ce qu'on sait si lui-même a joué ses fugues ?
On ne le sait absolument pas.
On ne sait pas. Non. Est-ce que c'était de sa part une sorte d'achèvement de son œuvre ou au contraire la mise en chantier d'une prospection vers l'avenir ? Ou, puisque tu dis 1740, on est déjà dans les préclassiques et on sait que cette œuvre n'a pas été tellement bien reçue du vivant même de Jean-Sébastien Bach, et même dans les années qui ont suivi, puisque on était là du coup en pleine période classique et qu'elle semblait presque anachronique que tout à coup un grand compositeur, fût-il Jean-Sébastien Bach, se mette à écrire des fugues comme ça monumentales. On vient d'en entendre une vraiment monumental, à une époque où, au contraire, les compositeurs lâchaient ce style baroque, cette écriture de contrepoint extrêmement savante, extrêmement exigeante, et se destinaient davantage au style, disons-le, galant.
Oui, évidemment, là, je ne peux pas malheureusement parler en son nom, Jean-Sébastien Bach, et c'est toujours très, très intéressant évidemment de savoir ce qui a pu se passer dans sa tête. Mais il est vrai, je pense que Bach, dans un cas comme celui-ci, n'écrivait pas pour l'extérieur. Alors, comme je l'ai dit, peut-être pour quelques spécialistes avec lesquels il voulait partager son savoir contrapuntique, mais je ne crois pas qu'il voulait prouver quoi que ce soit à quiconque. Mais c'était aussi une période de sa vie où, voilà, l'âge aidant, il a commencé à mettre au point la Messe en Si, qui elle aussi est composée de pièces écrites parfois bien longtemps avant, et d'autres pièces alors tout à fait récentes. Il y a les variations Goldberg. Donc ce sont évidemment, maintenant on dit des œuvres testaments, mais il est vrai qu'elles ont chacune cette portée d'une sorte de monde et d'un regard très clair sur le passé. Et ça, c'est particulièrement présent dans cette œuvre. C'est vrai que c'est une œuvre qui remonte aux sources du contrepoint, et en passant par Palestrina naturellement, que Bach connaissait. Et on remarque...
Mais les Français aussi.
Et les Français, oui. Mm-hmm, absolument. Et on remarque dans cette œuvre vraiment un attachement à ce passé très très fort. Et de nos jours, on peut naturellement aussi voir le fait qu'il a ouvert beaucoup de portes. Et ce n'est pas un hasard, je crois, si l'ère de la fugue au XXe siècle a commencé à inspirer certains compositeurs. Et
fasciner d'autres, comme Webern.
Par exemple, exactement. Et donc là, vraiment, c'est un point où le passé est présent, mais l'avenir est déjà en germe de beaucoup de manières.
Alors, tu as signalé les variations Goldberg. À moi d'informer le public ici présent, mais aussi les auditeurs de France Musique, que tu as réalisé il y a quelques années déjà pour Clavès un splendide enregistrement, un décapant enregistrement des variations Goldberg, toujours chantante d'ailleurs, mais avec un rythme, une énergie vraiment extraordinaire. Et puis, tu parlais de la Messe en Si, et tu disais tout à l'heure qu'il y avait dans toutes les cantates et dans tant d'œuvres de Jean-Sébastien Bach des fugues. On expliquera tout à l'heure, parce qu'on va revenir au mot fugue, qu'est-ce que c'est qu'une fugue, mais on va entendre la première fugue, disons la première grande fugue importante de la Messe en Si, c'est celle qui est dans le Kyrie, et c'est René Jacobs.
Thank you.
La fugue à quatre voix du Kyrie eleison de la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach, écrite dans les toutes dernières années de la vie de Jean-Sébastien Bach, je crois que c'est 1748-49, encore que certaines pièces ont été écrites antérieurement et incluses dans la totalité de l'œuvre. Et c'était interprété par l'Académie für Alte Musik de Berlin, dirigée par René Jacobs en 1992, avec le Rias Kammerchor, dirigé par Markus Kried, qui nous est cher ici, puisque je fais souvent entendre des chœurs de Schubert dans ce disque absolument sublime qu'il a réalisé avec ce Rias Kammerchor, Markus Kried. Et je signale d'ailleurs que cette messe en si bénéficie en 1992 d'une distribution étonnante, avec des petits jeunes qui ont fait ensuite parler d'eux, notamment Matthias Goerne et Bernard Affink. Il avait une belle oreille, René Jacobs. Alors, je le disais tout à l'heure, les émissions du Matin des musiciens, il y a aussi une dimension pédagogique, même modeste, mais le mot fugue, bon, on entend dire des fugues, on se rend bien compte, et on l'a entendu quand tu les as jouées, les deux premiers contrepoints, tels qu'ils s'appellent, de l'art de la fugue, ou cette fugue à l'instant de la messe en si mineur, on entend bien qu'il y a une voix, puis une deuxième, une troisième, une quatrième même. Il y a un étagement de ces voix, mais ça obéit tout de même à des règles. Mmh. On peut d'ailleurs discuter sur le fait, est-ce que Bach s'est émancipé de ces règles, ou est-ce qu'il y a une différence de traitement dans les fugues de l'art de la fugue et dans les fugues du clavier bien tempéré, puisqu'il y a quand même 48 fugues qui sont accolées aux 48 préludes des préludes et fugues du clavier bien tempéré. Comment tu définirais les fugues, disons, de l'art de la fugue, puisque c'est l'œuvre qui nous occupe aujourd'hui?
Donc une fugue est toujours composée d'un sujet, thème, qui est entendu dès le départ de chaque fugue. Et dans le cas de l'art de la fugue, c'est extrêmement particulier parce que l'œuvre entière est basée sur le même thème. Donc vous l'avez entendu dès le départ, il s'agit de...
On est en ré mineur. On entend un accord décomposé, ventilé, ré, la, fa, ré.
Exactement.
Un accord de ré mineur, un accord parfait, comme on dit.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, il se trouve que j'ai étudié en profondeur le contrepoint, mais moi-même j'ai écrit beaucoup de fugues totalement inintéressantes, tout à fait scolaires, mais enfin ça me permet peut-être de mieux comprendre et admirer le génie de Bach. Au moment où un compositeur écrit son thème, il doit déjà être au fait de toutes ces métamorphoses possibles. Et ça, j'imagine que Bach a dû très longtemps réfléchir à ce thème qui paraît très très simple, mais qui dans le cours de l'œuvre va être, comme je le disais, donné d'un nombre de manière absolument incroyable. Alors ça peut être par renversement. Là, vous entendez juste les premières notes. Dans le cas de l'origine, on a d'abord un saut vers le haut, et ensuite ça redescend pour fermer un accord. Et dans le cas du renversement, on a... etc. C'est une des possibilités. Il y en a de nombreuses dans le courant de l'œuvre. Aussi, la possibilité dans certaines fugues de jouer ce thème que vous avez entendu à une valeur, disons, lente, et par-dessus ce thème, le thème lui-même apparaît en valeur normale. C'est-à-dire on a deux sortes de vitesses, ou on a même, dans un cas encore plus compliqué, trois sortes de vitesses différentes. Donc le thème qui est vraiment très très lent, le même thème par-dessus deux fois plus rapidement, et encore une fois par-dessus quatre fois plus rapidement. Donc c'est mathématiquement extrêmement complexe, et évidemment dans le cas de cette œuvre, c'est vraiment... il n'y a aucune note qui est du remplissage. On n'a jamais l'impression d'une contrainte. On a l'impression qu'au contraire, ça libère complètement la fantaisie de Bach, et c'est tout simplement éblouissant d'analyser ça. Pour revenir à cette première fugue, qui est la plus simple, c'est-à-dire chaque fugue qui va venir va devenir de plus en plus complexe. Donc celle-ci, je le disais, il y a l'énoncé du thème. Et ensuite, le principe de la fugue, c'est que ce thème va être donné à plusieurs voix. Donc cette fugue, en l'occurrence, elle est à quatre voix. Donc, c'est-à-dire quatre voix, c'est-à-dire quatre instruments à cordes ou quatre instruments à cuivre, pourquoi pas, ou alors une personne qui joue ça seule, c'est-à-dire le pianiste, l'organiste ou le claveciniste, mais qui doit vraiment essayer de vivre horizontalement chacune de ces voix, comme si chacune de ces voix n'était qu'une part d'un ensemble plus complexe. Et ça, c'est la difficulté et la beauté du jeu polyphonique, c'est-à-dire de mélanger l'horizontalité et la verticalité, parce que ces voix ne font que se rencontrer naturellement tout le temps et créer des accords, des tensions, des consonances, résonances, des dissonances, etc. Donc, pour revenir à cette première fugue, donc à partir du moment où l'énoncé de la première voix étant à l'alto, la deuxième voix vient ensuite au soprano, à la quinte. C'est toujours comme ça dans une fugue. Pour que ce processus puisse se développer, c'est-à-dire si on avait toujours à la même tonalité, on aurait une incapacité, disons, de se développer harmoniquement.
Donc, joue-nous juste ces deux premières voix, l'entrée de la première.
Ce que nous connaissons bien déjà maintenant. Et la voix se prépare.
Voilà, la voix du dessus, à la quinte, c'est-à-dire 5 degrés plus haut que le ré, ré, mi, fa, sol, la. Ça, c'est la voix la plus grave. Qui retrouve le ton d'origine. De nouveau à la quinte, la voix médiane.
Et voilà, donc on a eu moins d'une minute les 4 entrées de thèmes qui sont extrêmement. Il n'y a aucune attente, aucun repos entre ces thèmes. Donc il y a la première voix, la deuxième voix, la troisième voix, la quatrième voix, et qui crée petit à petit cette ampleur. Et qui demande naturellement, en tant que pianiste, on ne peut pas tout faire entendre de la même manière, naturellement. Donc c'est là qu'intervient le travail polyphonique, le fait de doser les voix, de savoir si on veut, à chaque fois que le thème rentre, le marquer spécialement, ou si au contraire, on veut s'attacher à d'autres voix. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans toute fugue, il y a aussi un contre-sujet. Je parlais de sujet, mais le contre-sujet est ce qui va accompagner le sujet dans des développements futurs. Alors, et ça, c'est la grande force de Bach aussi dans ses fugues, de souvent écrire non seulement un contre-sujet, mais 2, voire 3, voire 4 contre-sujets. Et ça veut dire que globalement, il y a des fugues, plus ça avance, plus, comme je l'ai dit, elles deviennent complexes, il y a des fugues où on n'aura aucune voix qui n'appartiendra pas à soit le thème, soit un des contre-sujets, avec tous les renversements possibles entre les voix. Et c'est relativement complexe à expliquer, mais encore naturellement beaucoup plus complexe à composer et à interpréter. Ce n'est pas facile non plus, naturellement.
Et alors toi, Cédric, est-ce que tu as choisi un parti pris interprétatif que tu suis d'un bout à l'autre ? Tu nous disais, on peut choisir de marquer l'entrée des voix ou au contraire de suivre, de privilégier une ligne d'une voix par rapport à d'autres. Est-ce que, ou alors c'est au gré de chaque fugue ? Chaque fugue a-t-elle un caractère particulier à tes oreilles ?
Il se trouve que j'ai vraiment fait un travail en profondeur qui me semblait nécessaire et surtout qui était pour moi une source d'émerveillement et de passion incroyable. C'est-à-dire que j'ai vraiment joué et appris par cœur l'œuvre en entier, non seulement dans sa globalité, mais aussi chaque voix isolément. Comme je le disais, je trouve que chaque voix elle-même est une source de beauté incroyable. Et maintenant que je joue cette œuvre généralement avec la partition sur 4 portées, j'ai vraiment l'impression que pendant que je joue, mon esprit et mon cœur se promènent entre ces voix et vont décider d'éclairer une voix plutôt qu'une autre. Comme je le disais, on ne peut pas vraiment tout faire entendre, et ce serait d'ailleurs trop pour une oreille exercée et aussi naturellement non exercée. Donc ça, c'est vraiment au gré de ce grand parcours de 90 minutes ou 100 minutes que dure l'art de la fugue, de voilà, décider qu'on va marquer plutôt l'alto, le ténor, et d'accompagner une voix pendant un petit moment et de passer à une voix suivante. Mais vraiment, cette œuvre donne une foule de possibilités à l'interprète et aussi, on le sait, le nombre de versions qui existent sur d'autres instruments que le piano, je crois vraiment, et chacune va éclairer quelque chose de différent, mais sans jamais pouvoir donner la totalité. Et ça, je crois que c'est très très important. Tout ce que nous faisons, nous, interprètes de l'art de la fugue, ce sont que des essais de s'approcher de ce texte qui, quelque part, est le plus magnifique et le plus beau quand on peut simplement le lire et suivre chaque voix et comme je le disais, la beauté de chaque ligne mélodique horizontale et les rencontres verticales.
Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un exemple justement dans ces fugues, que ce soit dans la première ou tout autre que tu choisirais pour nous, est-ce que tu pourrais nous jouer une voix sur plusieurs lignes et puis une autre voix également sur plusieurs lignes que nous entendions justement, puisque tu parles de l'autonomie, de l'histoire individuelle de chaque voix, le parcours individuel de chaque voix. Est-ce que tu pourrais nous jouer une de ces voix ?
Alors, comme nous avons déjà passé un petit peu de temps avec cette première fugue, je me propose de continuer, même si, encore une fois, c'est de loin la plus simple et pas celle où les lignes sont le plus développées, mais déjà sublime en soi, naturellement. Et si on prend cette voix d'alto, c'est intéressant de savoir que l'œuvre commence par l'alto, et il se trouve que la toute dernière note que je vous jouerai en fin d'émission, c'est aussi l'alto qui la donne. Donc c'est vraiment certainement un hasard, parce que l'œuvre étant inachevée, on ne pense pas que Bach aurait terminé comme ça, disons, sans arriver à l'apothéose, mais dans l'état du texte tel qu'on le connaît, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est alto qui a commencé par le thème. Ensuite, je vais continuer à jouer seulement cette voix d'alto. Vous verrez à quel point ce n'est pas du tout du remplissage. J'ose pas dire même mélodique, parce que ça va au-delà, c'est pas une mélodie qu'on peut chanter naturellement ou siffler, mais c'est voilà, d'une grande beauté. Et ensuite, par exemple, je vais jouer le soprano, qui donc est la deuxième entrée de voix, donc on connaît bien l'entrée maintenant. Donc vous voyez des pépites qui forment, mises l'une sur l'autre, cette grande complexité de l'œuvre.
On va faire une petite respiration et aller, je dirais, à la recherche d'un temps perdu, celui où les interprètes n'avaient peut-être pas toutes les connaissances musicologiques que nous avons aujourd'hui, mais ont tenté d'interpréter à leur manière l'art de la fugue. Je pense notamment, évidemment, à ce grand chef d'orchestre Hermann Scherchen, qui a fait un travail considérable sur Jean-Sébastien Bach, qui a instrumenté à sa manière l'art de la fugue à partir de ces quatre voix qui sont notées sur la partition, vraiment sur quatre portées. C'est tout à fait. C'est d'ailleurs comme ça qu'on travaille, c'est avec les quatre portées. C'est pas, parce qu'il y a des versions, des éditions qui présentent évidemment sur deux portées, clé de sol, clé de fa pour les pianistes, mais c'est un peu une solution de facilité d'une certaine manière, non ?
Oh, ça c'est laissé à la précision de chacun. C'est vrai qu'il faut, ça prend pas mal de temps, d'autant que les clés sont anciennes. Ce ne sont pas les clés de fa et de sol. Il y a des clés d'ut, etc. Donc c'est vraiment tout un travail de l'esprit si on n'a pas l'habitude. Mais ensuite, c'est vrai, moi je pense que je pars du principe que c'est tellement plus clair de voir les quatre portées devant soi quand on joue l'œuvre plutôt qu'une réduction sur deux portées.
Écoutons donc Hermann Scherchen, qui dirige l'orchestre de la Suisse italienne en 1962, dirigé dans l'instrumentation qu'il a réalisée lui-même de l'art de la fugue, le contrepoint numéro 7. Nous venons d'entendre le 7e contrepoint de l'art de la fugue, instrumenté par Hermann Scherchen, qui dirigeait là en 1962 l'orchestre de la Suisse italienne. Moi, je trouve ça très très beau, parce que c'est très chantant, justement, cette dimension du cantabile.
Absolument, et il faut savoir aussi que Scherchen vraiment était un pionnier, un de ceux qui ont prouvé que cette œuvre n'était pas seulement faite pour être lue, mais également jouée, entendue. Et je suis tout à fait d'accord, je trouve qu'il y a une qualité de chant vraiment et d'expressivité. Et Scherchen n'a pas peur dans cet enregistrement de faire de vrais crescendo, de faire sonner son orchestre dans toute son ampleur, des choses qui naturellement ne se faisaient pas à l'époque de Bach de cette manière. Mais voilà, lui a pris cette liberté et c'est une des versions que j'aime beaucoup.
Oui, moi aussi. Alors, on disait tout à l'heure que Bach connaissait parfaitement la musique française antérieure à la sienne propre, mais aussi de son temps. Forqueray n'avait aucun secret pour lui, et tous les auteurs de fugues, parce que la fugue était un genre très très prisé dans la France de ces années-là. Et justement, le 6e contrepoint, c'est une sorte d'ouverture à la française. Est-ce qu'on peut définir ce qu'est une ouverture à la française, ou le style d'une ouverture à la française? C'est le rythme.
C'est un rythme pointé.
Une scansion,
exactement. Et c'est vrai, Bach a donné quelques... Dans cette œuvre relativement abstraite qu'est l'art de la fugue, a néanmoins utilisé certaines formes qui sont, par exemple, la sarabande. On peut reconnaître dans la 12e fugue une sorte de sarabande ou une sorte de gigue dans la 13e fugue. Et dans ce cas précis de la 6e, une vraie ouverture à la française, telle que Bach en a écrit énormément dans ses suites pour orchestre, dans les variations Goldberg, dans quelques parties tard.
Dans le clavier bien tempéré. C'est une ouverture à la française. Sol mineur, c'est une ouverture à la française. Alors, il nous a semblé intéressant, puisque tu disais tout à l'heure qu'effectivement, quatre voix, ça laisse très libre l'interprétation. Est-ce qu'on fait en soliste ou en petit ensemble? Eh bien, on va entendre quatre manières différentes d'aborder ce 6e contrepoint, cette 6e fugue de l'art de la fugue. D'abord, une version, on va dire, moderne, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, qui a été enregistrée il y a quelques années par le quatuor Keller. C'est le quatuor Keller qui interprète le 6e contrepoint de l'art de la fugue, in stilo francese, dans le style français, avec ce rythme pointé très caractéristique, et là joué d'une manière assez légère. Alors, sur instrument ancien et avec l'ensemble Hespérion 20 de Jordi Savall, voilà ce que donne exactement le même contrepoint. le début du sixième contrepoint dans le style français de l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, cette fois avec Jordi Savall et son ensemble Hespérion 20, un tempo comme nous l'avons entendu beaucoup plus lent. On se disait hors micro avec Cédric que peut-être la pompe Louis XIVienne finalement est assez bien rendue, et aussi l'écart entre la réalité de ce rythme à l'époque et l'idée aujourd'hui peut-être erronée qu'on se fait d'une certaine légèreté française qui n'existait peut-être pas. Mmh. C'est intéressant parce que dans ton disque, qui paraît aujourd'hui chez Aeon, de l'art de la fugue, ce tempo, c'est à peu près le tien. Un tempo assez recueilli, assez lent, assez solennel. Mmh. Et on va entendre ce qu'en fait cette fois le Musikantico à Köln, dirigé par Reinhard Goebel, avec l'ajout d'un clavecin. Et au clavecin, c'est Andreas Steyer. Écoutons cette même sixième fugue. Toujours ce même début du sixième contrepoint dans le style français de l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, cette fois avec le Musikantico à Köln dirigé par Reinhard Goebel, joué. Il joue aussi le violon avec Ahio Bess et à l'alto Karl-Heinz Steeb, au violoncelle Phoebe Carey, et cet ajout du clavecin, cinquième personnage, qui ajoute en densité, me semble-t-il, parce que ce qu'on entend, alors ce sont des rythmes pointés très rapides, une certaine verticalité du discours par rapport, je dirais, à la linéarité solennelle de Savall. Mm-hmm. Tu as un mot à dire sur ces trois différentes interprétations ?
Alors, moi, je pense, comme je l'ai dit avant, que cette œuvre est tellement énorme qu'elle donne beaucoup, beaucoup de possibilités d'interprétation et que chacune, quelque part, est touchante et convaincante. Moi, j'aime y voir quelque chose de très dramatique dans cette fugue. J'ai parfois l'impression même que c'est dispersé dans l'espace. Les quatre voix, on a, comme peuvent l'être la musique incroyable de Gabrielli, par exemple, qui est bien antérieure à Bach, mais avec cette idée vraiment où, telle qu'on peut le rencontrer dans La Passion selon Saint Matthieu de Bach, où il y a vraiment deux orchestres et chœurs qui sont opposés vraiment dans l'espace. Et ce qu'on peut dire peut-être de cette fugue, c'est juste montrer en deux mots comment elle est construite, parce que c'est assez incroyable. Donc on a le thème tel qu'on le connaît bien, qui est pointé maintenant à la basse. Par-dessus ça, au soprano, tout de suite, dès la deuxième mesure, alors c'est plus comme dans la première fugue où chaque voix avait le temps d'être jouée en entier. Cette fois-ci, vraiment, c'est ce qu'on appelle des strettes, c'est-à-dire que les voix vont rentrer sans attendre que le voisin ait terminé avec l'énoncé du thème. Mais cette fois-ci, non seulement va rentrer immédiatement, mais en plus va rentrer en inversion, c'est-à-dire comme s'il y avait un miroir, comme je l'ai déjà expliqué auparavant, à la place qu'on ait un saut qui monte, on a dès le départ la même chose, mais en descendant. Et le tout est vraiment renversé. Mais non seulement c'est renversé, mais c'est dit, énoncé deux fois plus rapidement. Alors encore une fois, on avait à la basse, etc. Et là, on a... vraiment déjà ces deux plans. Et ensuite, là encore, sans que les voix aient terminé l'énoncé de leur thème, l'alto entre, alors lui aussi en valeur courte, mais non plus renversée, mais dans sa forme originale. Donc on avait au soprano et là, donc la même chose. Et si on a les trois voix, maintenant je vais vous jouer les trois voix. Donc la première. Donc là, on a en 10 secondes déjà un condensé et cette fugue va enchaîner les entrées. Je les avais comptées une fois, mais je ne me souviens pas. Mais il y a peut-être quelque chose comme 60 ou 70 entrées dans 4 minutes de musique. Alors vraiment, comme je le disais, il n'y a pas une seule note au bout d'un moment qui n'appartient plus à ces thèmes, à ces niveaux. Et ce n'est pas le fameux de la complexité, si je peux dire ça comme ça. Dans la fugue suivante, Bach va encore compliquer les choses et ajouter une troisième valeur. Donc il y aura, de manière sous-jacente, je dirais, le thème énoncé alors beaucoup, beaucoup plus lentement, c'est-à-dire... Et là, on aura ces trois niveaux. Donc, c'est complètement hallucinant. Et peut-être qu'on ne perçoit pas, à une première écoute, tous ces niveaux, toute cette complexité, même à une centième écoute, j'imagine. Parce que là encore, je pense que le cerveau et l'oreille humaine arrivent quelque part à leurs limites. Ils n'ont pas la possibilité de suivre horizontalement ces trois voix, mais au contraire, vont bien remarquer les entrées et vont bien remarquer l'énergie qui se dégage de ces quatre voix absolument dynamiques et pleines.
Alors justement, la première fugue que tu as jouée tout à l'heure en ouverture de l'émission, Ré, La, Fa, Ré, l'accord parfait de Ré majeur, le Ré qui monte sur le La et ensuite on redescend, Fa, Ré. Tu peux nous jouer au piano Ré, La, Fa, Ré. Ça c'est la base, première fugue. Est-ce Exactement. Que tu pourrais nous montrer, alors sans être exhaustif évidemment, parce qu'il y a tellement et tellement de fugues, mais les variantes à partir de cette matrice Ré, La, Fa, Ré, accord parfait, Ré mineur, il n'y a pas plus simple. Comment Bach, alors on a déjà eu une idée avec le style français, hein, bien entendu, mais est-ce que tu peux nous montrer d'autres variantes à partir de cette matrice Ré,
Dans
La,
cette
Fa,
fugue.
Ré
Alors peut-être les 10 premières entrées, donc on a... Avec des notes de passage, donc c'est complexifié par rapport à l'énoncé initial. La deuxième entrée... Troisième entrée. La quatrième entrée à l'alto, là de nouveau inversée.
Qui est en La mineur.
En La mineur,
donc
exactement.
Joue-nous un accord parfait de La mineur.
Exactement.
Voilà.
Donc là, on a
qui
déjà
s'oppose
modulé.
Ou qui dialogue avec celui en Ré mineur.
Absolument. Donc on avait Ré mineur et on a La mineur. Et là, ensuite, il continue sur cette voie de La mineur avec l'entrée suivante. À l'alto, en valeur lente de nouveau. Et là, entre la même voix en La mineur, toujours deux fois plus rapidement. Ensuite, on a deux mesures de développement. Et ensuite, il recommence avec ses strettes, donc de nouveau en Ré mineur. Par-dessus ça, on aura l'alto, le ténor, pardon. Et par-dessus ça, toujours en Ré mineur, le soprano. Donc tout ça sonne étonnamment semblable, naturellement, mais quand même à chaque fois différent. Et je crois que quand on entend ensuite les quatre voix, on a moins cette impression d'une monotonie. À mon sens, pas du tout une impression de monotonie, mais si on jouait que les thèmes, on aurait l'impression d'une chose qui est extraordinairement redondante. Mais tous les contre-sujets vont faire que cette musique va à chaque fois se renouveler et qu'on aura l'impression d'entendre toujours quelque chose de semblable, mais jamais vraiment la même chose.
Alors, on a entendu jusqu'à maintenant des ensembles, Quatuor Keller, Jordi Savall, Hespérion XX, Musica Antica Köln. On va entendre d'autres instruments solistes cette fois. Mais il n'y en a pas 36, hein. Le clavecin et l'orgue. On va commencer, parce que auditivement c'est plus logique, disons, on va commencer par le clavecin. J'ai choisi la version de Kenneth Gilbert pour la 11e fugue. Écoutez le début de cette fugue monumentale. Et après Kenneth Gilbert en 1989 dans le début de la 11e fugue à quatre voix, on va entendre cette fois à l'orgue un des grands maîtres de l'orgue dans cette musique, c'est Helmut Walscha. À la fin des années 50, un enregistrement légendaire qui a beaucoup, beaucoup marqué l'histoire discographique, mais aussi de l'interprétation de l'art de la fugue à l'orgue, et je pense aussi les autres instrumentistes quand ils ont abordé cette œuvre. Helmut Walscha, on va l'entendre cette fois dans une fugue à trois voix, la 8e. Des très très belles fugues de l'art de la fugue avec tous ces motifs chromatiques. Est-ce que tu peux nous jouer lentement une gamme chromatique ? Donc, tout ça, évidemment, à partir de cet accord parfait de ré mineur dont on a parlé, et puis tout ce qu'il ajoute, et notamment ce motif qui revient d'une manière obsessionnelle.
Et le chromatisme devient de plus important à mesure que l'œuvre avance, vraiment que le discours est de plus en plus complexe et expressif aussi, parce qu'un chromatisme et les intervalles chromatiques sont les intervalles expressifs par excellence. Et là, on a, quand je joue l'œuvre en concert, dans l'ordre que j'ai choisi, parce qu'encore une fois, il n'est pas défini par Bach, mais je le mets en disons, ça arrive à peu près à la moitié de l'œuvre, et à partir de ce moment-là, c'est vraiment une élévation, on ne peut pas appeler ça vraiment autrement, où les fugues vraiment sont de plus en plus expressives et pour aboutir à cette fameuse dernière fugue.
Alors c'était donc Helmut Walscha dans son fameux enregistrement de l'art de la fugue en 1956. Et alors on atterrit, si je puis dire, logiquement sur ton enregistrement qui sort aujourd'hui chez Aeon de l'art de la fugue, sur ton piano de 1901, un magnifique Steinway modèle D, donc 2,74 m. On va en entendre deux extraits, deux contrepoints qui ont une particularité.
Oui, alors on appelle ça en allemand Spiegelfuge, c'est-à-dire une fugue en miroir, c'est-à-dire que non seulement une voix, comme on a pu le voir avant, est renversée, mais le tout est absolument renversé, c'est-à-dire on ne sait pas quel est l'énoncé originel quelque part. Il y a A et B, mais A peut-être l'idée originale ou B peut l'être. Alors ça, c'est à l'interprète de décider laquelle des deux viendra en premier. Et vraiment, il n'y a pas une seule voix qui n'est pas exactement renversée, comme si, vraiment, on ne peut pas expliquer ça mieux qu'un miroir. C'est vraiment l'intervalle qui va vers le haut ira vers le bas, la gamme qui ira vers le haut ira vers le bas, etc. Et c'est valable pour les trois voix de cette fugue. Donc je les joue de manière enchaînée et c'est vraiment, vraiment saisissant parce qu'on joue ces 2 minutes 30 de musique et après, on a l'impression de revenir en arrière et de regarder le même paysage mais à partir d'une perspective totalement différente et c'est là aussi un des grands moments je dirais psychologiquement et spirituellement très 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 fort dans cette œuvre. Thank you.
les 13e contrepoints A et B, donc inversé de l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, interprété sur son enregistrement Ion et sur son piano Steinway 1901, Steinway américain, par Cédric Péchia. Alors on s'en est peut-être pas très bien rendu compte sur ces deux contrepoints, mais tu as tenu à enregistrer cet art de la fugue sur un piano accordé, entre guillemets, d'une manière particulière. Est-ce que tu peux juste nous en dire un mot ?
On connaît bien sûr le clavier bien tempéré, écrit par Bach, qui était vraiment cette œuvre qui a été écrite à un moment où le tempérament, c'est-à-dire la manière d'accorder un clavecin, était encore très très fluctuant. De ville en ville, c'était différent. Il n'y avait pas un tempérament, disons, qui faisait l'unanimité. Et au fil des décennies, on est arrivé à ce qu'est le tempérament actuel sur un piano, c'est-à-dire où l'octave est divisée en 12 tons égaux. Bach n'a pas connu ça, et j'ai choisi pour cet enregistrement de faire accorder le piano comme on accordait les clavecins à l'époque et comme on continue d'accorder les clavecins quand on joue de la musique de cette époque. Et c'est toujours un défi intéressant parce que ça ne correspond pas forcément à la physique du piano, d'accorder comme ça en tempérament inégal, mais pour moi il y a un véritable gain dans certains contrepoints au niveau du chromatisme, où on a vraiment un chromatisme beaucoup plus coloré, si je peux dire, beaucoup plus éloquent, et aussi les tierces à la fin de chaque fugue, qui sont des tierces majeures, on sonne de telle manière beaucoup plus ouverte, je trouve. Alors tout ça, c'est naturellement très subjectif. Il se trouve que vraiment, je me reconnais complètement dans ce tempérament, que j'ai beaucoup, beaucoup cherché, fait de recherches avec mon accordeur technicien à Berlin, et je suis vraiment très heureux du résultat de cette sonorité du piano. Et je dois dire, ce tempérament, cet accord a aussi modifié un petit peu la couleur du piano, qui a quelque chose d'un petit peu plus feutré. Par certains moments, je crois que ça peut même évoquer le clavicorde, alors qu'il y a d'autres moments où c'est beaucoup plus large, ça peut évoquer l'orgue, mais tout ça, enfin toutes ces choses qui sont, voilà, un petit peu de la cuisine interne et personnelle, mais moi ça m'a, je pense, beaucoup aidé à jouer cette œuvre de manière expressive.
Alors avant que tu nous joues la dernière fugue inachevée de l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, Cédric Péchia, ici au studio 106, je voudrais lire quelques phrases extraites du texte qui accompagne ton disque, qui sort aujourd'hui chez Ion. Texte écrit par Philippe Albera, qui dit la chose suivante, ça recoupe évidemment ce que tu nous as dit depuis le début de cette émission. On pourrait appliquer à la polyphonie de Bach ces mots de Mallarmé. Alors, Mallarmé définissant les vers de la poésie. Donc, le vers agit. Donc, le vers agit comme le principe de la fugue qui agit. Le vers agit, dit Mallarmé, un sentiment avec ses sursauts et son délice s'y rythme tout seul et devient le vers, sans que quelqu'un l'impose brutalement et de son fait. Fermez les guillemets. Dans les nombreux tours de force de l'œuvre, et là Philippe Albera parle de l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, donc dans les nombreux tours de force de l'œuvre, et en particulier dans les fugues où la même musique est reprise comme si elle était lue dans un miroir, l'espace s'inversant, Bach semble détenir la clé d'une formule magique et l'œuvre naît d'elle-même. Dans l'exaltation de la maîtrise, le flux de pensée, quintessence d'un art séculaire, qui efface l'auteur pour devenir pure spéculation. Et un peu plus loin, les relations démultipliées créent une sorte de fermentation qui débouche sur une exaltation et une élévation. C'était sans nul doute pour Bach une manière de s'approcher du royaume divin. Qu'est-ce que tu peux nous dire avant de la jouer, de cette dernière fugue de l'art de la fugue ?
Je pense que cette citation que tu viens de donner de Philippe Albera décrit totalement mon sentiment. Donc vraiment, effectivement, on commence avec ce que vous avez entendu maintenant il y a une heure, c'est-à-dire maintenant je pense qu'on arriverait, si j'avais joué l'art de la fugue en entier, nous arriverions peut-être au moment de cette dernière fugue, et c'est toujours un parcours absolument incroyable, justement où l'aspect terrien chez Bach est tellement important. C'était vraiment un homme de la terre, très souvent vraiment ancré dans le terrain, et je crois que c'est le cas du début de l'œuvre et de beaucoup de ses fugues. Et au fur et à mesure que ça avance, justement, cette impression qu'on n'est plus vraiment avec les pieds sur terre, pas vraiment encore tout en haut, enfin, dans ce qui me concerne, mais quelque part là, entre deux. Et cette dernière fugue, alors on sait que la fugue est inachevée, ça c'est absolument indiscutable. On ne sait pas pourquoi elle est inachevée. Alors il y a beaucoup de théories, certains pensent que Bach serait mort à ce moment-là, ce qui maintenant est assez contesté par la plupart des musicologues, mais c'était la version qu'on a tenue pour vraie pendant longtemps. On pense aussi que certaines personnes pensent que la tâche était devenue trop monotone. monumentale, que Bach projetait d'écrire une quadruple fugue à ce moment-là et qu'il a déposé les armes, mais ça correspond ni au génie de Bach ni à sa ténacité, parce que Bach, il faut vraiment savoir, c'est quelqu'un qui ne s'avouait jamais vaincu, qui remettait sur le métier des choses de plus en plus difficiles, etc. Donc il y a encore d'autres théories. Les faits, alors ce qu'on a, c'est-à-dire sur le papier, c'est une fugue, la seule fugue dans laquelle le thème n'apparaît pas. Alors il y a bien quelque chose qui ressemble étrangement tout au début. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Je dirais même que c'est presque comme si le thème était raccourci, il est beaucoup plus court et il était presque épuré. Mais ce n'est pas le thème, vraiment. Ensuite, donc il va faire une première fugue, si on veut, avec ce thème, donc avec tout ce dont on a parlé, toutes les procédés habituels de la fugue, jusqu'au moment où la fugue pourrait terminer. Mais il commence une nouvelle fugue, c'est-à-dire avec un sujet totalement nouveau, qui est... d'une beauté incroyable. Voilà, qui a quelque chose de beaucoup plus mélodique, qui s'écroche, quelque chose vraiment d'extrêmement éloquent. Et là, alors, il va aussi écrire une fugue avec ce thème. Et dans le cours de cette mini-fugue, si je peux dire ça comme ça, apparaît de nouveau le thème du début de cette fugue, donc les thèmes sont mêlés. Ensuite, cette deuxième fugue est terminée. Et il commence, alors là, la troisième fugue. Et ça, c'est particulièrement bouleversant parce que ce sont les propres lettres de son nom. Vous savez qu'en allemand, on ne dit pas do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais A, B, C, D, E, F, etc. pour décrire chaque note. Et les notes B, A, C, H se trouvent être toutes les quatre des notes. Par exemple, dans mon nom, il y a des notes qui correspondent à la gamme et d'autres qui ne correspondent pas à la gamme. Et Bach avait cette chance incroyable, si on peut dire ça comme ça, d'avoir un nom qui est vraiment musical. Alors ça veut dire B, si bémol, A, La, C, Do, H, Si naturel. Donc on a ce thème qui, cela étant dit, a été utilisé par de nombreux compositeurs jusqu'à nos jours. C'est vraiment une signature. Liszt, naturellement, Busoni, même Schumann, etc. Donc vraiment, c'était une signature importante, mais Bach ne l'a jamais utilisé jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire, il apparaît ci et là de manière cachée et presque codée, mais avec une telle clarté, c'est vraiment la première fois. Bach a attendu cette dernière œuvre pour signer de son nom un des thèmes. Donc là encore, il va utiliser ce thème et écrire une fugue en soi achevée, avec tous les renversements que nous connaissons. Et ensuite, ce qu'il commence, c'est à superposer les trois thèmes. Alors, on a le deuxième thème, ensuite, immédiatement rentre le premier thème, et le thème BACH apparaît. Tout ça, c'est en l'espace de deux mesures. Et huit mesures après, la musique s'arrête. Encore une fois, beaucoup de gens ont pensé que Bach envisageait non pas une triple fugue, comme nous en avons une là, mais une quadruple fugue, c'est-à-dire qu'il aurait, à la toute fin, ajouté le thème initial qui manque à cette fugue. Alors ça, c'est encore de la spéculation, on n'a aucun écrit qui nous le confirmerait ou nous l'infirmerait. Cela étant, maintenant, comme je l'ai dit, ça se termine par la voix d'alto. Tout à coup, ça se dilate, il n'y a non plus quatre voix, il continue un petit peu encore la voix d'alto pendant quelques notes et ça s'arrête sur d'ailleurs un ré qui est la première note de l'œuvre, mais encore une fois ça c'est probablement le fruit du hasard ou un euro hasard disons. Donc voilà, donc dans cette fugue elle-même, dans cette œuvre hors norme, cette fugue elle-même hors norme qui allait peut-être se terminer de manière triomphale sur un accord de ré majeur avec l'apothéose des quatre thèmes, se termine d'une manière bien différente et naturellement incroyablement touchante.
Eh bien, tu vas la jouer ici au studio 106 pour le Matin des musiciens et pour le public du studio ici présent et les auditeurs de France Musique. Cédric Péchia au studio 106 pour le matin des musiciens du mercredi. Aucun autre mot à ajouter, sinon qu'il vient de jouer la dernière fugue de l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach sur un sténoué de la maison en lettres à Paris, préparé par Léo Duroy, mais qu'aujourd'hui même, 29 janvier, paraît chez Aeon la totalité de l'art de la fugue, enregistrée par Cédric Péchia sur son propre sténoué américain de 1901, dont nous avons entendu quelques extraits tout à l'heure. Merci, merci infiniment Cédric, d'abord pour cette émission consacrée à cette œuvre qui est tellement dans ton cœur, dans tes tripes, dans ta chair, dans tes pensées et dans ton piano, dans la manière dont tu le fais sonner et vibrer pour nous. Et puis merci aussi pour ces trois longs ateliers, Schubert la semaine dernière, il y a 15 jours, Bach aujourd'hui. C'était un mois de janvier magnifique qui commençait 2014 d'une manière absolument glorieuse et j'en suis tellement heureux et tout le public avec moi. Je remercie bien sûr mon équipe aujourd'hui à la prise de son Olivier Dupré et Kevin Lebars, à la sonorisation du studio 106 Nadège Antonini, aux éclairages Julien Misen et Gilles Gouel, l'accord du piano Léo Duroy, Barbara Alotto et Jean-René Bonissant m'ont aidé à préparer cette émission réalisée par Marie Groux. Merci à vous, public du studio 106, et à la semaine prochaine.